Voilà, on va commencer et bien évidemment je n'ose pas appeler ça ni un cours et à plus forte raison pas une conférence, c'est pas du tout le sujet. On est réunis pour se renforcer mutuellement et surtout pour vous renforcer après l'épreuve inimaginable que vous vivez. Et mon intervention sera pour l'élévation de l'âme de Shirel Esther Bat Karen et de Sarah Bat Karen, qui est Nishmatam Tsura Betzror Achaïm. J'avoue très sincèrement que je ne suis pas bien depuis le début de la journée, très traumatisé par le fait que je devais venir ce soir pour intervenir parce que c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, vous savez que la première lettre de la Torah est un bet, la dernière lettre de la Torah est un lamed, qui forme le mot lev, le cœur, parce que toute la Torah, elle doit être dans le cœur, pas dans la tête. Et l'enseignement est clair. L'étude de la Torah, et surtout, et à combien plus forte raison, l'enseignement, c'est le cœur qui doit parler, pas la tête. Un enseignant de Torah n'est pas un professeur d'université. Même s'il sait tout, mais qu'on sent que c'est son cerveau qui parle, c'est pas de la Torah. À combien plus forte raison, dans une soirée comme la nôtre, où finalement il faut essayer de réconforter des parents que seul le maître du monde peut réconforter, et qu'aucun homme sur terre ne peut le faire, c'est un projet qui est surhumain. Et donc je disais que la Torah doit être transmise avec le cœur. Et seulement si on est capable de faire parler son cœur, alors on peut peut-être faire rentrer nos paroles dans le cœur de ceux qui en ont besoin, comme disent nos maîtres, Dvarim ayotzim min alev nichnasim lalev. Seulement une parole qui sort du cœur peut rentrer dans le cœur. Vous savez, à l'époque du Talmud, il y avait un maître, un grand maître qui s'appelait Rabbi Yochanan. C'était un homme d'une, excusez-moi le mot, pour un maître d'Israël, ça se prête pas trop, mais c'est le Talmud qui le dit, d'une beauté inimaginable, un homme qui avait un visage rayonnant, au point qu'il avait même reçu une bénédiction particulière contre le Aïnara, parce que, excusez-moi l'expression, mais aucune jeune fille pouvait le voir passer sans se retourner. Un visage extraordinaire, rayonnant. Et malgré tout, c'était le seul qui, dans sa génération, était autorisé à aller voir des personnes endeuillées pour les consoler. Malgré le fait qu'apparemment c'était un homme qui, on pourrait dire, qui transmettait la réussite, la joie, le bonheur. Mais seul lui était autorisé à aller consoler des gens comme vous après un drame pareil. Pourquoi ? Il avait eu 10 enfants et il avait enterré 10 enfants. Tous ses enfants sont morts, les uns après les autres, et le dernier est mort d'une manière atroce. Il est tombé, il a escaladé, vous savez, un gosse, il a escaladé une marmite bouillante, il est tombé dans la marmite. Il n'est resté qu'un os. Et à chaque fois que Rabbi Yochanan allait, c'était le seul qui était autorisé à aller consoler, et vous devinez pourquoi. Il sortait l'os pour que tout le monde se rappelle de son histoire et tout le monde comprenne que lui, il est habilité à consoler les autres parce que lui, il sait de quoi il parle. Comment quelqu'un comme moi, et même si le Baal Shem Tov était là ici aujourd'hui et qu'il n'a pas traversé ce que vous avez traversé, même le Baal Shem Tov n'est pas en droit de vous consoler. Parce que tu ne peux consoler que si tu as vécu ce que ceux que tu es censé consoler vivent. Rabbi Yochanan, avait vécu un drame inimaginable. Ça n'avait pas empêché, comme on va voir, d'être un homme qui avait gardé une force, un courage inimaginable, au point que quand on le voyait et qu'on ne connaissait pas son histoire, on n'aurait pu jamais imaginer un homme tellement rayonnant, tellement brillant, tellement beau, tellement, je ne sais plus comment on dit en français, qui était macrine, qui reflétait une telle joie de vivre. Comment on aurait pu imaginer que tous les enfants qu'il avait mis au monde, il ne lui restait que l'os du dernier, qui avait complètement disparu dans la marmite bouillante. Et donc, lui, quand il consolait, il savait de quoi il parlait. Parce que, comme nous expliquent nos commentaires, les gens le voyaient avec un visage tellement rayonnant, les gens connaissaient son histoire, ils se disaient « Mais comment un homme pareil peut-il encore être comme il est ?» Mais il avait trouvé cette force. Et donc, bien évidemment, Baruch HaShem, merci Maître du Monde, que nous faisons partie, moi et vous tous, sauf vous deux, de la majorité de la génération qui ne vivra pas, ne vit pas, et Baruch HaShem ne vivra pas le drame que vous traversez. C'est évident que je n'ai aucun sroot, aucun droit, aucun mérite de vous consoler. Parce que je suis à des années-lumière d'avoir le droit de le faire. Donc je m'adresserai sans prétention au Maître du Monde. Lui peut, oui, consoler, et qu'il se serve de moi ce soir, qu'il se serve de ma bouche, pour essayer de vous transmettre les mots, les forces dont vous avez besoin, mais ça ne viendra pas de moi, parce que je ne suis absolument pas à la hauteur pour le faire. Vous le savez peut-être, dans la fin de la prière, je le rapporte souvent dans mes cours, on termine la prière, Alenu les Shabéar, par un verset très étrange qui dit Bayom ahou yeh Hashem Echad Ushmo Echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Au futur, Dieu sera un. Le maître pose une question évidente. Ça veut dire quoi? Un jour, il sera un et aujourd'hui, il est deux, il est trois, on est idolâtre. Aujourd'hui aussi, il est un. Et nos maîtres répondent oui, bien sûr qu'il est un. Mais pour nous, il n'est pas vraiment un. La preuve, c'est que dans un moment de malheur, on se déchire les habits, et quelle est la bénédiction que l'on récite? Baruch Dayan Ha'emet. Tu es un juge de vérité. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Et dans un moment de bonheur, on fait une autre bénédiction. Baruch Atov Ve'Ameitiv. Tu es celui qui fait du bien à toutes tes créatures. Et donc, puisque on voit que selon une situation de bonheur ou de malheur, on change notre approche, on change notre connexion avec le Maître du Monde, on s'exprime d'une autre manière, c'est la preuve que on ne peut pas le ressentir, tov ou meitiv. Excusez-moi, je vais vous faire mal, quand on vient d'enterrer deux petites filles. On ne peut pas dire à tov ou meitiv. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si on avait un Dieu pour les malheurs et un Dieu pour le bonheur. Be'ezrat Hashem, vous êtes jeune, vous mettrez au monde encore beaucoup d'enfants, Be'ezrat Hashem. Et vous allez construire une grande famille, Be'ezrat Hashem. Et vous aurez encore de nombreux moments de bonheur, des brit milot, des bar mitzvot, des bat mitzvot, des mariages. Mais ça ne va pas effacer, ça ne va pas remplacer le moment de malheur que vous vivez maintenant. Vous êtes dans une situation de Dayan Ha'emet, pas dans une situation de Atov Ve'Ameitiv. Mais nos maîtres nous disent, pourquoi on dit qu'un jour viendra, on dira Hashem Echad? Parce que viendra un jour où on comprendra rétroactivement, c'est horrible ce que je vais dire, j'ai honte de dire ce que je vais dire. Mais nos maîtres le disent. Viendra un jour où on comprendra rétroactivement que Akol Aya Atov Ve'Ameitiv, que même les moments les plus obscurs, les plus injustes, les plus cruels, cachaient en vérité un Tov Ve'Ameitiv inimaginable. Nos commentaires expliquent et disent qu'en vérité, le Tov Ve'Ameitiv qui se dévoilera rétroactivement au moment de la délivrance finale, pour toutes les souffrances que nous avons traversées sur terre, ce Tov Vehameitiv sera incomparable, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grand que tous les moments de bonheur que l'on vit pour l'instant dans ce monde. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'on dit « En ce jour, il sera un », on arrivera à comprendre que tout ce qu'on a traversé était un. C'était que du Tov Vehameitiv. Mais nos maîtres posent une question malgré tout. Mais pourquoi Hachem joue à ce jeu? S'il veut me faire du bien, alors qu'il me le fasse, pourquoi il me le fait d'une manière que moi je le vis comme une souffrance inimaginable, inacceptable? Pourquoi? Et nos maîtres répondent, parce que chaque chose, surtout des choses immenses que tu dois recevoir, il te faut un réceptacle pour les recevoir. Tu veux boire de l'eau, il te faut une bouteille, il te faut une bouche, il te faut un verre. Il te faut des réceptacles pour recevoir. Tu reçois quelque chose, tu dois tendre la main. Rien ne peut être reçu sans un réceptacle. Le réceptacle de cette lumière inimaginable qui se cache aujourd'hui à l'intérieur de l'écorce, de la souffrance et de l'épreuve, cette lumière inimaginable, pour pouvoir se dévoiler, n'a qu'un seul réceptacle possible. Et il s'appelle bien sûr la Emouna. La Emouna, ça veut dire, comme je vais l'expliquer en français, j'ai même pas envie de le traduire, je vais pas traduire par la foi parce que on n'est pas à l'église. Et c'est un mot qui ne se traduit pas, on doit le comprendre, plutôt que de le traduire. La Emouna, c'est cette capacité que la personne éprouvée a, cette capacité de trouver au plus profond de lui des forces qu'il ignorait complètement, que s'il arrive à les dévoiler, ces forces, elles vont faire de lui un géant qui va dépasser toute sa génération. Et c'est ça la Emouna. Et quand il arrive à se transformer complètement, à changer sa nature, à devenir un géant de Emouna, au moment de la délivrance, Hachem cassera l'écorce de la souffrance, cassera l'écorce du deuil, dévoilera le fruit qui se cachait dans cette souffrance, et bien évidemment, le fruit sera d'autant plus facile à recevoir qu'au moment de la délivrance, bien évidemment, vous retrouverez vos deux filles, vous serez ensemble avec tous vos autres enfants, et ces deux filles seront une couronne sur la tête de chacun d'entre vous, de vous deux, et tous ensemble vous comprendrez ce qui est aujourd'hui incompréhensible, que nous n'avons même pas le droit d'essayer de comprendre, ce serait un crime, car notre cerveau ne peut pas monter à ce niveau-là aujourd'hui. Mais un jour viendra, où grâce à la Emouna que vous aurez eue dans ce monde, vous recevrez dans ces réceptacles inimaginables une lumière incroyable. Mais regardez plus encore. En ce moment, vous êtes, comme je l'expliquais, dans la situation de Dayan à Emet. Juge de vérité. Mais pourquoi on l'appelle Dayan à Emet? Baruch Ata Hashem, Dayan, à Dayan. Pourquoi à Emet? Qu'est-ce que vient rajouter le mot Emet? Je vais arriver droit au but sans expliquer tout le Midrash qui parle de ce que je veux toucher. Nos maîtres nous disent qu'un jour, Hachem a pris la vérité, elle était tout en haut dans le ciel avec lui, et il l'a jetée à terre. Il l'a jetée à terre. Pourquoi? Sans entrer trop dans les détails, je n'ai pas l'intention de faire un cours ni une conférence, je veux trouver uniquement les mots qui vous renforcent. Parce que la vérité apparemment ne supportait pas ce monde, c'est un monde de mensonges, un monde hypocrite, un monde de vitrines. Et la vérité ne comprenait pas pourquoi Dieu avait créé ce monde. Alors, Hachem s'est fâché contre la vérité, il a pris la vérité et il l'a jetée à terre. Elle a dégringolé, elle s'est cassée la figure. Mais la vérité ne s'est pas découragée, c'est une métaphore bien sûr, ne le prenez pas à la lettre. La vérité ne s'est pas découragée, elle s'est tout de suite ressaisie et elle a commencé à se relever. À partir du sol où elle s'était fracassée. Comme vous deux. Et à ce moment-là, Hachem a dit, « Emet, mais Eretz Titzmar, la vérité poussera à partir de la terre. » Le message que nous comprenons explique nos maîtres, et c'est pour ça qu'on dit Dayana Emet, Il y a une illusion extraordinaire. Au moment où on traverse un deuil, au moment où on traverse une souffrance inimaginable, on doit être comme le Emet. Ça veut dire que vous vous êtes complètement cassé la figure. Vous êtes écroulé. Hachem vous a pris de là où vous étiez et vous a jeté à terre. Vous êtes en mille morceaux. Et pourquoi on dit Dayana Emet? Parce que c'est ce qui est arrivé à la vérité. La vérité aussi a été jetée à terre, mais elle est arrivée à se relever. Et c'est d'une certaine manière le test d'authenticité, le test de vérité, si j'ose dire, qui se trouve en chacun d'entre nous. On pourrait presque traduire le mot Dayana Emet d'une autre manière, car comme vous savez, l'hébreu, surtout l'hébreu biblique et l'hébreu talmudique, est un hébreu que l'on peut traduire de milliers de manières, tellement il est extraordinaire. Dayana Emet, on peut le traduire par « tu juges l'authenticité ». Dayan ha-emet, tu juges la vérité, tu juges l'authenticité. Je préfère traduire authenticité par vérité. Ça veut dire que quand Hachem choisit deux personnes pour leur faire ce qu'il a fait, bien qu'on ne parle que de l'écorce, on ne parle pas du fruit qui se cache, il va tester la vérité, il va tester l'authenticité. Et le maître du monde ne fait pas ça à n'importe qui, comme on va le voir. Il sait qui il choisit. Et comment on arrive à le comprendre? Parce que sur cette vérité qui s'est écroulée, qui se relève, et qui ne reste pas découragée, déprimée, malade sur terre, Emet, mais Eretz Titzmar, la vérité se relève, il y a un autre personnage sur lequel on utilise le même mot. C'est le Mashiach. Au sujet duquel il est dit, Et Tzemach David Avdecha Me'era Tatzmiyar. Traduction mot à mot, fait que la pousse de David, comme la vérité, que cette pousse, ce tsemar en hébreu, cette pousse, se dévoile et pousse le plus vite possible. Pourquoi le Mashiach lui aussi est appelé tsemar? Selon l'exemple de la vérité qui a été jetée à terre et qu'elle s'est brisée en mille morceaux et maintenant elle se reconstruit, elle se relève. Pourquoi le Mashiach aussi? Mes amis, je vais vous dire quelque chose qui est dur, inacceptable, incompréhensible pour l'instant, c'est évident. Mais sachez et comprenez, et je le dis avec la plus grande authenticité, et même si le Baal Shem Tov était devant moi, même si Rashi était devant moi, je parle de gens qui n'ont pas souffert comme vous. Je ne parlerai pas de Rabbi Nachman, qui lui a enterré pratiquement tous ses enfants et ses petits-enfants durant sa courte vie. Il est mort à 38 ans. Il a passé sa vie à enterrer sa famille. Donc lui, je ne parlerai pas de lui. Mais je parle de gens immenses. Le Gaon de Vilna. On pourrait en citer Baba Salé. Baba Salé, non, a perdu un fils de son vivant, Rabbi Meir. Donc je ne citerai pas Baba Salé. Mais je citerai des Gdolim inimaginables qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Alors si je pose la question, par le mérite de qui va venir le Mashiach? Qui va le faire pousser le Mashiach? Qui va amener la délivrance au monde? Vous croyez que c'est les grands dans la Torah? Je rajoute qu'ils n'ont pas souffert? Non. C'est vous. C'est toi. Parce que vous, vous êtes dans une situation de tsemar. Hachem vous a jeté du haut de votre réussite, du haut de votre bonheur, il vous a fracassé à terre. Maintenant, il attend de voir comment vous allez vous relever. Et si vous vous relevez, je vous garantis, je le dis, c'est enregistré, et nous le vivrons. Quand le Mashiach va venir, il aura besoin d'une armée. Il aura besoin du mérite de tous ceux qui non seulement l'ont fait venir, mais qui vont l'accompagner dans la réparation du monde. Imaginez à quel point son travail sera dur. Vous croyez qu'il va rentrer dans les yeshivot pour aller chercher les rochers yeshivot? Les Dayanim, les Rabban communauté, les Tzadikim, je vous garantis, je le dis devant Hachem, que les premiers qu'il va venir trouver, c'est vous deux. Et il vous dira, c'est grâce à vous que je suis là. Et donc, c'est grâce à vous que le monde peut être réparé et que le monde peut être sauvé. Parce que vous avez été tourmenté, éprouvé, avec cette épreuve de Emouna, que Hachem distille dans son monde et qu'il ne peut donner qu'à des êtres très particuliers. Voyez, quand on voit votre mari, il a la même tête que tout le monde. Quand on vous voit, vous avez la même tête que tout le monde. Mais qui aurait pu imaginer que vous étiez des âmes à ce point gigantesques? Parce que si Hachem vous a choisi, vous, pour que vous vous releviez et que par le mérite de vos efforts et de votre émouna, le Mashiach, quand il viendra, dira « C'est vous qui m'avez fait pousser », eh bien, apparemment, vous ne vous connaissiez pas. Vous pensiez que vous étiez une petite juive comme tout le monde. Vous pensiez que vous étiez un petit juif comme tout le monde. Eh bien, sachez que vous êtes un géant. Et je le dis, sans avoir la moindre peur, le Baal Shem Tov ne vous arrive pas à la cheville. Parce que lui n'a pas été éprouvé comme vous avez été éprouvé. Et donc, automatiquement, il n'aura pas le mérite que vous avez pour faire venir le Mashiach, si, je rajoute bien, si vous vous relevez de cette épreuve. Et bien sûr que vous allez vous relever. Rien que je vous vois, j'ai aucun doute. Et de toute façon, je ne vous lâcherai pas. Mais rien que je vous vois, j'ai aucun doute. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Je raconte souvent dans mes cours une histoire terrible, mais qui est tellement révélatrice de ce qu'est vraiment la Emouna. La Emouna, c'est croire en Dieu, qu'à Dieu ne plaise. N'importe quel taré croit en Dieu. C'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est manger kasher et faire Shabbat? Non. Ça, c'est tout simplement mettre en pratique les commandements. C'est pas ça la Emouna. La Emouna a été révélée par un tzaddik après la Shoah. Un grand tzaddik qui a perdu pendant la Shoah sa femme et ses 11 enfants. Et il est arrivé à s'en sortir. Il est arrivé à Jérusalem et il avait énormément de chassidim. C'était un tzaddik polonais, enfin un admor, un rabbi polonais, un rabbi de chassidout. Et sa chassidout a pratiquement été complètement décimée. Il est arrivé après la guerre à arriver à Jérusalem et à tout reconstruire à partir de rien. Et il attendait de voir des survivants comme lui venir le retrouver à Jérusalem. Et au bout d'un certain temps arrive un chassid qui avait été l'un de ceux qui étaient le plus proche de lui avant que ne commence la Shoah. Il s'était perdu de vue. Et lui aussi, le chassid, avait laissé une femme, toute sa famille, de très très nombreux enfants. Et le chassid se fait annoncer. Le rabbi est dans une émotion inimaginable, sachant qu'il va bientôt se retrouver face à face avec quelqu'un qui vient de traverser l'enfer comme lui. Il se retrouve en yéchidout, ils sont seuls, le rabbi dans son bureau et le chassid en face de lui, et ils se regardent. Personne ne peut parler. Parler pourquoi? Ils se regardent et dans ce silence, ils se parlent pendant des milliards d'années. Et au bout d'un moment, le rabbi met fin à cette conversation silencieuse. Et il dira une phrase qui, pour moi, en ce qui me concerne, a été l'une des clés les plus fortes qui m'ont ouvert toutes les portes du grain de sable que je suis aujourd'hui. Le rabbi dit à son chassid, il lui dit la chose suivante, « Sache, pour celui qui a la Emouna, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. » Cette phrase-là, gravez-la dans votre cœur. Je pense que jamais au monde, quelqu'un a dit une phrase pareille. Une phrase aussi gigantesque. Pour celui qui a la Emouna, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que ce rabbi a donné la définition exacte de la Emouna. La Emouna, pas tous en même temps, hein, parce que ça fait trop de bruit, très bien. La Emouna est un niveau de conscience, un niveau de force tel, et c'est inexplicable. Celui qui le vit ne peut pas l'expliquer à celui qui n'a pas cette expérience. C'est un niveau de conscience tel que je suis tellement connecté au maître du monde, je suis tellement sûr que même si je ne comprends rien, même si c'est illogique, même si ça me semble injuste, et à mon niveau, c'est oui injuste. Et je ne dois pas avoir honte de le dire. Mais malgré tout, je sens au plus profond de moi une connexion avec le maître du monde qui me transmet des forces telles que je refuse de poser des questions. Ma émouna me mène, m'élève au-dessus des questions. Et sachez que si vous arrivez à atteindre ce niveau, que moi je ne pourrais pas atteindre, Be'ezrat Hashem, jamais dans ma vie, je ne pourrais pas l'atteindre ce niveau-là. Mais si vous arrivez à atteindre ce niveau, que vous arrivez à vous relever, à reprendre une vie, entre parenthèses, normale, et pas seulement normale, que Dieu me pardonne, je n'ai rien à vous dire, rien, puisque qui je suis pour vous parler, je vous ai dit encore une fois, c'est pas à moi, même pas, je ne peux même pas vous consoler. Mais on a vu dans ces dernières générations et dans toute l'histoire du peuple juif, des gens qui avaient été touchés d'une manière terrible et qui, quand ils ont repris le dessus, ils ont décidé de consacrer leur vie à faire un bien inimaginable autour d'eux, à transformer l'obscurité en lumière. On a ce cas célèbre de Yad Sara. Qui ne connaît pas Yad Sara? Yad Sara, c'est un empire de Chesed. Tout a commencé il y a une trentaine, une quarantaine d'années avec un jeune couple qui avait à peine de quoi manger. Ils ont eu un enfant paralysé, ils l'ont mis au monde. À cette époque-là, il n'y avait rien, pas de chaise, rien, etc. Ils ont souffert l'enfer pour arriver à s'occuper de leur gosse. Et ils ont compris que peut-être le message était qu'il fallait peut-être ouvrir un empire d'aide à tous les handicapés. Aujourd'hui, le plus grand empire de Chesed qu'il y a au monde, c'est Yad Sara. Je pense que même en Amérique, c'est même pas la peine de le dire, c'est évident. Il y a un autre cas, Zichron Menachem, très connu, l'aide aux enfants cancéreux. Un jeune couple américain, ils sont à Jérusalem, qui eux aussi ont mis un enfant au monde, il est mort d'un cancer, et ils ont décidé de vouer leur vie à l'aide aux enfants cancéreux. Et ils ont aujourd'hui monté un empire. Un empire, c'est des milliers d'enfants en Israël et de par le monde, cancéreux malheureusement, mais à qui ils apportent de l'espoir, de la lumière, des forces, et souvent qu'ils arrivent à sauver aussi parce qu'ils ont des dons de donateurs, etc., qui leur permettent d'aller voir des médecins les plus compétents, les meilleurs, et qui parfois arrivent à sauver des enfants aussi. Deux exemples, si vous voulez, de personnes qui auraient pu continuer à vivre jusqu'à la fin de leur vie en se posant la question « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Je dis « Il n'y a pas de pourquoi. » Comme a dit le Rabbi, celui qui a l'Emouna, il ne pose pas de questions. Rentrons dans l'action, faisons quelque chose. Et ils ont transformé leur vie. Finalement, un enfant, ils ont perdu du cancer. Des milliers et des milliers d'enfants, ils ont sauvé du cancer. Voilà comment ils ont transformé l'obscurité en lumière. Et je suis sûr que ce message, vous le comprendrez. Dans un an, dans deux ans, d'abord, c'est clair que vous devez recommencer à vous reconstituer. Physiquement, moralement, au niveau du couple, pensez à agrandir la famille, parce que ça vous fera un bien énorme, ça vous permettra de voir autre chose. Et puis peut-être pensez à ce que je vous dis, peut-être avoir un projet de chesed, peut-être, va savoir, monter un empire d'aide à des enfants qui ont traversé un accident et qui sont un petit peu handicapés ou malades, va savoir. Peut-être que vous allez devenir, vous allez fonder un empire, et Dieu sait qu'il y en a pour des enfants qui ont vécu un trauma ou une blessure physique irréparable à cause d'un accident de voiture. Va savoir. Et vous savez que dans ce genre de projet, vous aurez le monde entier avec vous. Surtout si les fondateurs de ce genre de projet sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais ça sera votre choix. Et si vous faites ce choix-là, vous allez devenir, je ne veux même pas dire les héros du peuple juif. Je vous dis personnellement, si vous arrivez à ce niveau-là, d'accord, j'aurai personnellement honte de me tenir devant vous, tellement vous allez me dépasser, moi et tous les maîtres de cette génération, tellement vous deviendrez grand si vous arrivez à faire ça. Parce que ça, c'est la vraie grandeur. Je voudrais rajouter encore deux, trois petites choses très importantes. Sachez, mes amis, que dans un couple, la véritable force du couple, c'est vous, madame. Nos maîtres nous disent que la Emouna, la force de la Emouna a été donnée à l'épouse plus qu'au mari. Le mari a d'autres qualités, d'autres forces. Mais la force de la Emouna, elle a été donnée à la femme. L'avenir d'un couple, l'avenir d'une famille, surtout quand elle traverse ce que vous traversez, l'avenir de votre famille dépend de vous. De vous, plus que de votre mari. Votre mari a énormément de travail à faire dans tous les domaines. Mais dans le domaine de la Emouna, c'est vous. Nos maîtres apportent une histoire qui n'a rien à voir avec la vôtre, mais de laquelle on peut malgré tout apprendre quelque chose. C'est l'histoire d'un chassid et d'une chassida, deux êtres extraordinaires qui étaient mariés à l'époque où la loi était encore en vigueur, que si après 10 ans de mariage on n'a pas d'enfant, soit l'homme amène une autre femme à la maison, soit il se sépare parce qu'il va en épouser une autre, parce qu'il doit avoir des enfants. Et comme il s'aimait et se respectait tellement, il n'a pas eu le courage de faire cet affront à son épouse, d'amener une nouvelle femme à la maison, à l'époque où la polygamie était permise, on parle il y a plus de 2000 ans bien sûr. Et il a dit à son épouse, écoute ma chérie, viens on se sépare, chacun part de son côté, je ne peux pas, la loi m'oblige à avoir des enfants. Il avait compris que apparemment le problème était de son côté à elle. Et on se sépare parce que de toute façon une autre femme je n'amènerai pas à la maison. Elle a accepté pour que son mari puisse avoir des enfants. Elle a accepté. Ils se sont séparés. Et chacun est parti de son côté. Elle, la Providence l'a amené chez un homme très méchant. Et lui, la Providence l'a amené chez une femme très méchante. Chacun finalement est tombé sur quelque chose de pas bien. Les deux étaient bien sûr brisés. Parce qu'ils s'aimaient à la folie, ils n'avaient pas eu d'enfant, et la cerise amère sur le gâteau, ils s'étaient séparés. Et donc les deux avec énormément de brisures en eux. Et nos maîtres nous disent, l'homme n'a pas eu la force de se reprendre en main, il s'est laissé complètement piétiner par sa femme, et il a tout lâché alors que c'était un chassid. Il a tout lâché, il a abandonné la Torah. La femme, elle, qui était elle complètement brisée aussi, elle s'est reprise en main, elle n'a pas lâché, et elle a fait de son mari un chassid encore plus grand que son premier mari. Et de là, nos maîtres disent, « Mikan, she'akol bekoach haisha. » De là, tu vois que tout vient de la force de la femme. Dans votre cas à vous, vous avez une sacrée responsabilité. Et vous y arriverez. Je n'ai aucun doute. Vous allez arriver à transformer votre famille en un exemple que toute la communauté francophone et tous ceux qui vous connaîtront après dans le monde israélien diront, mais c'est pas possible, mais comment ils sont arrivés à ce niveau-là, mais comment ils ont fait? Et tous comprendront, oui, mais tu as vu la femme qu'il a. Tu as vu la femme qu'il a. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez réussir. Et le plus tôt possible, j'espère qu'on va tous se réunir pour danser avec vous, pour se réjouir avec vous, pour pleurer de joie avec vous et pour faire de vous la couronne de votre mari. On a malheureusement une histoire dans le Talmud, j'ai encore deux petites histoires à raconter, qui nous prouve à quel point la femme a une force inimaginable. C'est l'histoire avec Rabbi Meir. Le maître de la lumière, le maître de la lumière. Pourquoi il était tellement resplendissant cet homme-là? Parce que celle qui le branchait à la bonne prise, c'était son épouse. Lui n'était qu'une ampoule qui brillait, mais il avait une bonne prise, c'était sa femme. D'une émouna inimaginable, c'est elle qui avait fait de lui le maître de la lumière. Et c'était un Shabbat, ils avaient deux fils adolescents, et Rabbi Akiva revient de la choule, il était parti Shabbat matin très tôt à la prière. Ses enfants ne priaient pas avec lui au minyan du net, au minyan de 5h du matin. Et il revient, ses enfants ne sont pas à la maison, il demande à son épouse, Bouria, ma chérie, mais où sont les enfants? Et les enfants étaient morts. Quand la mère a été les réveiller le matin, le mari était déjà à la synagogue, mais quand la mère a été pour les réveiller, elle s'est aperçue que dans la nuit, les deux enfants étaient morts. En même temps, chacun dans son lit, chacun dans sa chambre. Excusez-moi l'expression, mais n'importe quelle femme aurait hurlé à devenir folle et aurait été chercher son mari et serait devenue folle, hystérique. Rien. Elle attend son mari qui rentre à la maison. Son mari dit, allô, ma chérie, où sont les enfants ? Oh, écoute, rien, ils m'ont demandé avant de partir prier à la synagogue s'ils peuvent rester manger chez une famille d'amis à eux qui apprennent à la yeshiva avec eux. Et ne t'inquiète pas, tout va bien. Bon. Très bien qu'Ivan ne pose pas de questions. Il voit sa femme Bruria tellement souriante, tellement normale. Et donc, ils mangent ensemble. Puis après, Rabbi Akiva s'étonne, il dit, mais enfin, quand il ne revient... Comment ? Rabbi Meir, pardon, s'étonne, ils ne reviennent pas. Bon, écoute, ils traînent, ils sont bien là où ils sont, c'est pas grave. Bon, ma chérie, moi, je repars à Mincha et je reviendrai Motsé Shabbat parce que je dois donner un cours à Seuda Shlishi. Bon, il repart, il revient, Motsé Shabbat, et les enfants ne sont toujours pas là. La Rabbi Akiva dit, écoute, Rabbi Meir, c'est pourquoi je dis Rabbi Akiva ? Parce que Rabbi Meir était l'élève de Rabbi Akiva et il a appris cette grandeur de son maître qui a tellement souffert lui aussi. Et il dit, ma chérie, c'est pas normal, il y a quelque chose de pas normal. Elle dit, écoute, je vais t'expliquer tout de suite, mais d'abord, tu dois me répondre, il y a une question d'Alaha que le voisin est venu cet après-midi pendant que tu étais à Mincha, il m'a posé une question. Il dit, voilà, un autre voisin lui avait confié deux verres en cristal, très très précieux chez lui à la maison parce que lui il devait partir et il n'avait pas où laisser ses verres là et il savait que la maison de l'hôte était très très bien protégée. Celui qui est venu demander conseil à Madame Meir parce que c'était aussi une grande chacham et il a dit voilà le problème c'est que j'ai accepté de garder les objets précieux de mon voisin. Il raconte à cette femme là que maintenant elle raconte ça à son mari Rabbi Meir. Mais sont venus des brigands armés et ils m'ont menacé, ils m'ont tapé et ils ont volé tout ce que j'avais, ils ont volé aussi les ustensiles. Alors elle demande, et il est venu me demander, est-ce que je dois les rembourser, oui ou non ? Alors moi j'ai pas voulu donner ma réponse, qu'est-ce que tu en penses mon mari ? Alors lui il a dit, c'est évident qu'il doit pas les rembourser, ça dépend pas du tout de sa volonté, c'est le maître du monde qui a... décidé. Et donc, il n'a rien à rembourser. Bon, mais où sont les enfants ? Elle le fait monter dans la chambre. Elle dit, tes enfants sont là. Le maître du monde les a repris. Et donc, c'est exactement la réponse que tu as donnée au sujet des deux ustensiles. C'est le maître du monde qui les a repris. Quand Rabbi Akiva a vu, quand Rabbi Meir a vu, que sa femme a été capable de tenir pendant tout le Shabbat sans s'écrouler, au point que lui n'a pas décelé le moindre signe. Vous imaginez une maman qui vient de perdre deux enfants et qu'il a vécu avec elle un Shabbat tout à fait normal. Il a dit, disent nos commentaires, ce que j'ai dit tout à l'heure, je comprends pourquoi mes élèves m'ont donné le nom de Rabbi Meir, le maître de la lumière, parce que il n'y avait qu'une femme comme toi qui pouvait me donner tellement de force. Regardez la grandeur. Et de là, nos maîtres apprennent qu'effectivement, alors évidemment, ne prenez pas cette histoire au sérieux et personne ne nous demandera d'arriver au niveau de Bruria. Mais malgré tout, on apprend quelque chose de cela. Comme quoi se cachent des forces inimaginables dans une épouse, dans une femme, dans une mère, qui vient d'enterrer comme vous deux enfants, se cachent des forces inimaginables et vous ne pouvez même pas imaginer si vous arrivez à trouver ces forces ce que vous allez devenir d'ici quelques années. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce que vous allez faire de votre mari, ce que vous allez faire des enfants qui vont venir, vous allez devenir une famille que tout le monde regardera avec une telle stupéfaction qu'on n'arrivera pas à comprendre comment vous avez atteint un niveau pareil. Je terminerai juste par une autre histoire et après quelques mots pour vous renforcer. Une autre histoire aussi tellement importante à connaître, qui n'a rien à voir avec la vôtre, mais qui, oui, a à voir dans le sens des souffrances malgré tout. Vous savez qu'on vit le quatrième exil depuis maintenant 2000 ans, bien que grâce à Dieu, on est revenu sur notre terre. On commence à sortir de ce dernier exil, mais enfin, il y a encore à vision humaine, en tous les cas, encore pas mal de travail pour arriver véritablement à se sortir complètement de l'emprise des nations, de l'antisémitisme, de l'antisionisme, de tout ce qu'ils essayent de nous faire pour continuer à nous faire du mal. Mais un jour, le dernier exil qu'on appelle l'exil de Rome, l'exil de Édom, ce qu'il a commencé avec Rome qui a détruit le deuxième temple, aujourd'hui c'est plus Rome bien sûr italienne, mais ça garde le nom de l'exil de Rome, le quatrième. Un jour, cet exil-là terminera parce que, disent nos maîtres, l'Empire romain s'effondrera, s'écroulera. Et d'ailleurs, on commence, avec ceux qui ont des yeux pour voir, on commence déjà à voir de sacrées fissures dans le mur de cet empire. Et à mon avis, il n'en a plus pour tellement longtemps. Mais nos maîtres disent, il y a déjà depuis plus de 2000 ans, qu'un jour, l'Empire romain, c'est-à-dire le monde occidental, s'effondrera, et ce sera la délivrance d'Israël. Si je vous pose la question, mes amis, par quel mérite cette civilisation incroyablement forte et puissante, par quel mérite va-t-elle s'écrouler? Je pense que si on fait un test aujourd'hui, la majorité des gens diront à cause des tzadikim, à cause de ceux qui étudient la Torah, à cause de... Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas ce que nos maîtres disent. Au tout début de Maseret Avodah Zara, vérifie, Daf Bet Amud Bet, le petit Tosfot en haut. Tosfot rapporte qu'en vérité, l'Empire de Rome et la délivrance d'Israël se fera par le mérite d'une famille qui est morte dans des conditions atroces à l'époque justement du début du dernier exil, la famille du grand, grand, grand maître Rabbi Hananya ben Tordion. Rabbi Hananya ben Tordion nous explique nos commentaires. Toute sa famille a été décimée d'une manière terrible. Et par le mérite de cette mort, avec une émouna inimaginable, c'est cette émouna qu'ils ont eue au moment de leur souffrance qui mettra fin à ce dernier exil et qui libérera le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Hananya ben Tordion, à l'époque où les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah en public, enfin d'enseigner la Torah à des élèves, lui n'a pas fait cas de ce décret et il a continué à enseigner la Torah. C'était un des plus grands maîtres de tous les temps. Et bien sûr, le moment est arrivé où les Romains l'ont attrapé et ils ont décrété sur cette famille quelque chose de terrible. Ils ont dit, lui, ils vont le déshabiller, ils vont l'entourer de son Sefer Torah, et ils vont le brûler avec son Sefer Torah, mais ils mettront du coton imbibé d'eau entre le Sefer Torah et sa peau pour qu'il ait de nombreuses souffrances et qu'il meure. Il meure, c'est le cas de le dire malheureusement, à petit feu. Sa femme sera décapitée devant ses yeux et sa fille, ils avaient une fille, sera jetée dans une maison de prostitution. Vous imaginez la fille de Rabbi Hananya ben Tordion, qui était en même temps aussi la belle-sœur de Rabbi Meir. Rabbi Meir était marié avec la sœur de cette fille qui a été jetée dans une maison de prostitution, vous imaginez, il y a 2000 ans, avec plusieurs dizaines de Romains qui rentraient tous les jours, vous imaginez les barbares, qu'est-ce que ce genre de jeune fille juive devait subir tous les jours jusqu'à en mourir. Et cette famille a fait preuve d'une émouna inimaginable quand Rabbi Hananya ben Tordion a été... D'abord, il a vu sa femme décapitée. Sa femme, juste avant qu'on lui coupe la tête, récitait à haute voix des versets de la Torah qui ne parlaient que de Emouna, comme quoi elle plaçait sa confiance en Hachem d'une manière absolument incroyable. Lui, quand on lui a mis les cotons imbibés d'eau pour le faire souffrir, et un des bourreaux qui le faisait souffrir, a vu que c'était un homme qui était d'une telle sainteté qu'il lui a dit « Regarde, laisse-moi t'enlever les cotons pour que tu meurs plus vite. » Et Rabbi Hanina a refusé. Il lui a dit « Si c'est la volonté du maître du monde, je l'accepte. » Et donc dans un premier temps après, les choses ont changé, mais dans un premier temps il a refusé et lui aussi récité des versets de Emouna inimaginable. Et sa fille qui a été mise dans une maison de prostitution est arrivée avec une telle émouna en Hachem, que Hachem était avec elle dans cette maison-là, que Hachem l'a protégée, que jamais personne ne l'a touchée, elle arrivait toujours à se cacher, jusqu'à ce que son beau-frère Rabbi Meir arrive à la sauver, à la sortir de là. Elle est restée vierge, elle est restée propre, elle n'a pas été touchée par aucun Romain, parce qu'elle avait une émouna telle que Hachem lui faisait des miracles inimaginables, jusqu'à ce que Rabbi Meir, son beau-frère, arrive à la sortir de là. Et nos maîtres disent, par le mérite de cette famille qui a traversé l'horreur, vous imaginez Rabbi Hanania qui voit sa femme décapitée, qui voit sa fille jetée dans une maison de prostitution pour des soldats romains, mais à quoi se... Maman, excusez-moi, péter un câble, devenir fou, hurler, de crier à Hachem, dire mais t'es malade, et tout ce que j'ai fait pour toi. Ils ont eu une émouna inimaginable. Nos maîtres disent, par le mérite de Rabbi Hanania ben Torion et sa femme et sa fille, par leur mérite, il y aura la délivrance finale. Vous imaginez, ceux qui voient leur souffrance il y a 2000 ans ne peuvent pas s'empêcher de crier à l'injustice. Mais est-ce que nous, on peut comprendre les desseins d'Hachem et les plans d'Hachem qui va se servir de cette souffrance-là qui est transformée en émouna pour finalement faire qu'un jour nous puissions enfin vivre libres et heureux sur notre terre sans que plus jamais les nations nous fassent du mal, et que quand un jour on demandera « Mais par le mérite de qui ?» Par le mérite de la souffrance de ces trois personnes qui ont souffert avec une émouna inimaginable. Et nos commentaires posent une question, mais qu'est-ce qu'on a besoin de leur souffrance? Rabbi Hanania a été lui-même un grand dans la Torah. Ça devrait suffire, ces mérites de la Torah. Et de là, nos maîtres répondent, non, c'est pas les mérites de la Torah, c'est les mérites de la émouna. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué, puisqu'il s'agit des mérites de la émouna, c'est la raison pour laquelle même un couple comme vous, vous n'êtes pas le Baal Shem Tov, vous n'êtes pas le Gaon de Vilna, vous n'êtes pas Rashi, vous n'êtes pas le Rambam. Mais croyez-moi que vous, par le mérite que vous allez atteindre en vous reconstruisant et en développant en vous ces forces de Emouna, vous allez dépasser tous les grands de toutes les générations qui n'ont pas souffert comme vous. Et c'est par votre mérite, comme celui de Rabbi Hanania ben Tordion, que viendra la délivrance finale. Ce que vous devez retenir de tout ce que j'ai expliqué sont les points suivants. D'abord, excusez-moi de vous le dire, mais c'est trop vrai, je n'ai pas le droit de ne pas vous le dire. Vous pensiez jusqu'au malheur qui vous arrive que vous étiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de simples juifs. Eh bien, je vous le dis, et très sincèrement, à partir d'aujourd'hui, si vous rentrez dans un endroit où je suis assis, je vous promets que je me lèverai devant vous. Parce que si Hachem vous a choisi pour une telle épreuve, c'est que vous êtes beaucoup, beaucoup plus grand que tous les soi-disant rabbanim de notre époque. Parce que sinon, il ne vous aurait pas pris pour ça. Donc vous avez en vous une neshama inimaginable. Et ce que je dis, je ne l'invente pas. On a des cas dans l'Agmara où les grands maîtres d'Israël se levaient devant des juifs très simples, entre parenthèses, qui avaient été très 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 gravement éprouvés, mais qui étaient restés avec une émouna telle que les maîtres d'Israël se sentaient tout petits à côté d'eux. Et moi je serais le premier à le faire. Si demain je vous rencontre dans d'autres circonstances où vous venez me voir et que moi je suis assis, je me lèverai devant vous. Parce que si Hachem vous a choisi, vous avez une âme immense. Mais ça vous responsabilise aussi. Vous devez savoir que Hachem attend de vous quelque chose d'immense. Vous ne pourrez plus reprendre une vie normale, une vie standard. C'est impossible. Pour vous en sortir, vous avez besoin de vous dépasser, vous surpasser. Vous avez besoin d'exprimer toutes ces forces immenses qui se trouvent en vous, que vous ignoriez jusqu'à ce que cette épreuve arrive. Et donc ces forces-là, il va falloir les développer. Vous ne pouvez pas revenir à une vie standard. Vous devez, d'ici quelques mois, d'ici un an, deux ans, peu importe, c'est vous qui choisirez, vous devez décider de faire quelque chose de grand. Vous ne pouvez plus être monsieur tout le monde, c'est impossible. La famille tout le monde. Vous allez créer quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et sachez, et c'est peut-être le dernier message que je vous adresse, et je le dis avec une sincérité au point que si Hachem se dévoilait maintenant, je le dirais aussi, je n'ai pas honte de ce que je dis, parce que je sais que c'est vrai. C'est par le mérite de gens comme vous, que nous mériterons la délivrance finale. Si vous arrivez à vous en sortir, vous serez aux côtés du Mashiach lorsqu'il se dévoilera. Le maître du monde vous éclairera de sa lumière, il vous rendra vos deux filles, et vous serez pointés par tout Israël comme les sauveurs de notre peuple et le sauveur de l'humanité tout entière. Que le maître du monde vous comble de ses bénédictions, qu'il vous comble de force, qu'il vous comble de lumière, et que très vite vous deveniez un modèle pour toute la communauté francophone d'Israël et de partout dans le monde, et pour tous ceux qui apprendront à vous connaître. Amen. Beaucoup de courage, beaucoup de force, et Bezrat Hashem, que le plus vite possible on puisse se réjouir ensemble de bonnes nouvelles qui vont vous accompagner. Amen. Amen.